Le Arras Matsuri Festival qui met à l'honneur la culture asiatique et qui mêle tradition, art, gastronomie, manga, cosplay, jeux vidéo, jeux traditionnels, karaoké, contes, etc. a donné pour la cinquième année consécutive un nouveau coup de gong du 12 au 14 octobre à Arras. Il attire chaque année de nombreux curieux mais aussi des passionnés de cette culture assez peu représentée dans la région. Je vous propose de vous plonger dans l'ambiance de cette cinquième édition et on commence avec un court entretien de Laurent Delaval, l'un des initiateurs de ce projet. Il est au micro de Gabriel pour Radio PFM.
Quelle est l'initiative de base de ce festival? Parce que ça fait maintenant plusieurs années qu'il existe et il prend de plus en plus d'ampleur. Et
en fait, à la base, la rue des Balances devait devenir piétonne. On devait inaugurer cette piétonnisation de la rue des Balances. Et du coup, on s'était dit, à la place de mettre une petite corde rouge et avec une paire de ciseaux casser cette corde rouge, on va faire une fête japonaise. C'est comme ça qu'est devenu Arras Matsuri. C'est la cinquième année. Et en fait, chaque année, on agrandit un petit peu plus ce truc. Comme vous voyez, et vous, auditeurs, actuellement, vous ne le voyez pas, on sait que les éditeurs de PFM savent imaginer les choses. Donc là, actuellement, il y a une grosse structure de gonflable qui est en train de se créer. Et en fait, on va faire du baseball, parce qu'en fait, le championnat national, c'est au Japon. Venez déguiser, ça s'appelle du cosplay, donc vous prenez l'identité du personnage, ça c'est possible. Si vous avez des enfants, vous pouvez venir aussi avec eux, ils peuvent s'amuser à faire du sumo, tout ça et tout. Et puis, moi ce que j'aime beaucoup ici, et c'est mon kiff perso, c'est faire du yosakoi. Le yosakoi, c'est de la danse traditionnelle de rue, un grand grand moment sur les places.
On va se plonger maintenant dans l'ambiance d'un blind test sur la K-pop, ce phénomène musical sud-coréen qui explose depuis un petit bout de temps et qui rend les ados accros. On retrouvera juste après la gagnante ou le gagnant de ce blind test et Olivier de chez Big Star Records, l'instigateur de ce temps fort.
BTS Idol.
BTS Idol. Ton prénom?
Estelle.
Tu dis pas le nom. T'en as fait un facile. Estelle, un point. On continue.
My Place Stray Kids.
Ouais, c'est ça.
Alors, ton prénom?
Laurine.
Laurine. Ah. Un point.
Triple H, rétro...
Triple H, rétro... Estelle, un point. Ouh, Estelle, elle commence à prendre un peu d'avance.
C'est quoi le titre?
Je veux bien te laisser un petit chouïa de réflexion. C'est Betty.
Ah, mais faut revenir, t'as les voir.
Oh my, de Seventeen. Ton prénom, Laurine.
Non, mais ça y est.
Ouais, t'as un point. Alors, c'est comment ton prénom?
Louise. Qui est-ce qui a essayé de se mettre justement au coréen et... Alors, il y en a combien? Voilà. Alors, qu'est-ce que tu sais dire en coréen?
Les présentations de base et quelques mots vite fait, quoi, que j'ai appris dans les chansons et au travers des dramas coréens. Mm-hmm. Normalement, j'étais partie pour aller à Paris Diderot en SER coréen. Mm-hmm. Seulement, j'ai été prise, mais j'ai pas pu avoir de logement là-bas. Du coup, là, je suis en japonais.
D'accord.
À Lille. Mm-hmm. Mais vraiment, c'est une culture différente, en fait, de la culture française. C'est complètement un monde différent, j'ai envie de dire.
Alors, tu peux expliquer un petit peu, donc qu'est-ce qui est différent au niveau justement de la culture comme ça, des adolescents, parce qu'ils ont quel âge quand ils commencent, par exemple BTS, EXO,
BTS, ils ont commencé vers 19, enfin le plus jeune, je crois qu'il avait 17 ans, ouais, ou quelque chose comme ça. Mais là par exemple en ce moment, enfin il y a une jeune fille de 8-9 ans qui a fait un clip, et ça par contre je trouve ça très jeune. Mais enfin oui, ça dépend en fait de certaines agences. Des fois ils peuvent les faire commencer à 12 ans ou... Mm-hmm. Parce que, Il y a des 2003 maintenant qui débutent, ouais. Et, ou bien plus tard, ça dépend des moments.
Et alors au niveau de la culture, tu disais que c'était différent, qu'est-ce qu'il y a de différent ?
Par exemple, les mœurs déjà, elles sont très différentes. Aussi, je trouve qu'il y a un véritable respect entre les personnes plus jeunes et les personnes plus âgées, et qui est super intéressant, parce qu'ici, on n'a pas forcément la même notion de respect. Et enfin même... l'histoire du pays est super différente et c'est toujours intéressant de découvrir d'autres cultures comme ça, qui est très opposée à la nôtre.
Et alors, et c'est quoi alors les thèmes qui sont abordés dans les chansons de K-pop qui reviennent comme ça de manière récurrente ? C'est quoi ? C'est le thème de l'amitié, le thème de...
Souvent c'est l'amitié et surtout les amours de jeunesse.
Voilà, les premiers amours. Et qui finissent bien, qui finissent mal plutôt ?
Ça dépend.
Oh, là.
Est-ce qu'il y a de la K-pop en Corée du Nord ?
Là par exemple, en ce moment, les relations entre la Corée du Nord se sont un peu améliorées. On pas de là à refaire une seule et même Corée, mais par exemple il y a les Red Velvet qui sont partis en Corée du Nord présenter la K-pop aux Nord-Coréens, et on peut espérer peut-être que il y a des groupes Nord-Coréens qui se lancent dans la musique. Pour l'instant non, il n'y a pas de groupe Nord-Coréen.
Estelle, la grande gagnante, toi qui as gagné l'album de...
Bravo Estelle.
Alors Estelle, donc tu es la grande gagnante aujourd'hui de ce blind test K-pop qui a eu lieu à Big Star Records. T'es à fond hein, sur les groupes là. Tu peux m'expliquer un petit peu depuis quand t'écoutes cette musique ?
Alors ici je suis assez à fond dans la K-pop et ça va faire 5 ans maintenant que j'écoute de la K-pop. C'est grâce à une amie qui m'a présenté ça. En fait, elle s'est intéressée au phénomène quand il y avait Gangnam Style de Psy qui faisait le buzz partout. Et elle m'a fait découvrir avec elle et je suis super accrochée tout de suite en fait. Parce que c'est vraiment différent. Dans leurs clips par exemple, tout est misé sur l'esthétique. Du coup, c'est vraiment beau à voir. Il y a des tenues exprès, du maquillage qui est fait pour combiner avec la chanson.
Et des chorégraphies aussi.
Oui, et des chorégraphies surtout. C'est vraiment... j'ai envie de dire le pilier d'une musique K-pop, là, que ce soit accompagné avec une chorégraphie et un MV. Et même d'ailleurs en spectacle, ils chantent, au concert, bien sûr, des fois il y a du playback dans les émissions musicales, ce qui est évident. Mais en concert, ils font tout en live, ils font la danse, ils mettent tout en scène. Par exemple, je vais prendre l'exemple de BTS qui est beaucoup... connu. Il y a l'équivalent des Energy Music Awards en Asie qui est les MAMA, et dedans ils performent, et ils ont performé Blood, Sweat and Tears il y a maintenant 2 ans, et ils avaient tout fait, les détails des ailes, la mise en scène avec les statues, etc. Du coup c'est vraiment un beau spectacle à voir qui est super différent des concerts français, je trouve.
Ok, donc du coup t'en connais sacrément un rayon. Par contre, moi, la Corée du Sud, c'est pas, peut-être pas forcément qu'en Corée d'ailleurs qu'il y a de la K-pop, parce que je pense qu'au Japon aussi ou dans d'autres pays d'Asie ça marche aussi, mais au niveau de l'exportation, est-ce que c'est facile justement de se procurer cette musique via les magasins de disques, etc.
C'est assez difficile. Je sais qu'à Paris, il y a la boutique Musica qui est exprès pour les goodies K-pop, donc les t-shirts, les posters, tout ça, plus les albums. Mais sinon, par exemple, même à Lille, je veux dire, c'est assez difficile. Ça coûte un peu cher de les commander par internet avec les frais de port, etc. Mais ça vaut le coup en fait, parce que c'est un album complet, il y a un grand photobook avec des photoshoots qu'ils ont fait, des photocards, parfois il y a des petites récompenses dans les albums. Par exemple, je prends dans l'album que j'ai gagné, il y a des stickers à l'effigie des BTS en plus de l'album, alors ça vaut le coup je pense, pour moi je trouve.
Et est-ce que tu penses que c'est un phénomène qui va perdurer ou c'est juste un truc qui est éphémère, un effet de mode en fait ?
Honnêtement, je ne saurais pas dire, parce que là, par exemple, BTS exporte beaucoup la musique coréenne, et il y a eu les American Music Awards il n'y a pas longtemps, et BTS ont gagné un award, et en plus de ça, ils ont invité NCT à défiler sur le tapis rouge. Alors je pense que ça commence de plus en plus à s'exporter, et que ça commence tout juste en fait. Après, dans le temps, on verra bien ce que ça apporte.
En live, est-ce que c'est facile de les voir en France ? Ou est-ce que tu te déplaces à l'étranger pour aller les voir ?
Alors, j'ai essayé d'avoir mes places. Là, il y a plusieurs concerts. Ça commence vraiment à être très connu. Et là, notamment en septembre, il y a eu plusieurs concerts.
et BTS qui est le plus attendu du mois. J'ai essayé d'avoir ma place. À 9h, l'heure de vente, j'y ai été et malheureusement, j'ai pas réussi à avoir ma place car elle a disparu sous mon nez. En 2 minutes, même pas, c'était vendu pour les 2 jours. Et j'ai essayé d'avoir mes places pour Berlin aussi en Allemagne avec l'accord de ma mère. Et j'ai pas réussi non plus à les avoir.
D'accord, donc c'est vite complet quoi en fait, si je comprends bien. Le festival Matsuri en général, est-ce que c'est la première année que tu le fais ou est-ce que tu as l'habitude de venir et est-ce que, à part la K-pop, il y a autre chose qui t'intéresse ?
Alors, le Nihon Matsuri, j'y étais il y a 2 ans, pas l'année dernière, du coup, oui, je l'ai déjà fait. Mais à part la K-pop, il y a vraiment l'univers aussi japonais qui m'intéresse avec la J-pop, les animés évidemment, et un peu la culture aussi. Enfin, d'ailleurs, je fais LCR japonais pour ça aussi, car je suis intéressée par la langue japonaise aussi, je trouve que c'est vraiment beau.
Et bah, du coup, tu peux nous faire un petit jingle alors pour PFM en japonais ?
Konnichiwa minasan, watashi wa Estelle desu.
J'ai compris, je crois que ça veut dire bonjour, un truc comme ça, non ? C'est ça ?
Bonjour tout le monde.
Ok. Et toi, tu t'appelles comment ?
Elodie.
Alors, est-ce que t'étais avec elle ? On t'a pas entendu vraiment parler. Est-ce que tu partages un petit peu cette culture ?
Bah, en fait, je viens juste de commencer. Elle est en train de me faire découvrir la K-pop, donc je connais pas trop pour l'instant.
Donc, s'il y a un blind test l'année prochaine, tu vas être blindé, quoi ?
Bah, j'espère bien, ouais.
Olivier, donc chez Big Star Records, tu viens de faire un blind test K-pop pour ce festival Matsuri. Comment t'as fait, d'ailleurs, pour répertorier tous ces disques ? Parce que c'est pas facile à se les procurer.
Non, c'est compliqué, en fait. Tu sais, les Coréens, ils verrouillent tout, ils veulent pas que les Européens s'occupent de la distribution, ils veulent tout faire eux-mêmes, ils veulent garder tous les sous pour eux, et du coup c'est un peu compliqué tu sais, de trouver des choses. Alors j'ai appelé les gros mastodontes, tu sais, les 3 dernières majors, Universal, Sony et Warner, pour essayer d'avoir des trucs très, très compliqués. Puis j'ai un copain, heureusement, qui bosse là-dessus, qui bosse sur l'implantation des Fnac parisiennes, tu sais, ils essaient en ce moment de faire des beaux présentoirs de K-pop, de J-pop, la pop coréenne et la pop japonaise, et du coup il m'a dit je peux t'avoir des trucs, et voilà. Et ce sont des jolies pièces en plus parce qu'ils sont super forts en packaging. Je sais pas si t'as vu ça. Ah ouais. C'est pas du CD cristal voilà basique comme on a chez nous, mais vraiment des très beaux coffrets avec des petits objets à l'intérieur, des trucs à collectionner et tout ça, et ils sont vraiment super forts. Donc c'est grâce voilà. Et puis moi ça m'intéressait aussi de bosser dessus. Pourquoi ? Parce que ça m'énerve quand t'as des trucs qui sont difficiles à trouver et que les gamins soient obligés de passer sur internet et pas pouvoir toucher les objets avant de pouvoir les acheter. Donc voilà, chez Big Star Records, tu peux en trouver.
Et donc, du coup, parce que j'ai interviewé tout à l'heure la gagnante, hein, qui est prête même à aller faire des voyages jusqu'à Berlin ou je sais pas où pour aller voir des lives. Qu'est-ce que tu penses de cette culture d'explosion ? Est-ce que toi, tu penses que c'est un truc qui va, un effet de mode, un truc éphémère qui va pas durer ?
Ouais, je pense que c'est... voilà, tu sais, à chaque époque, ça... Moi, je me souviens quand j'étais gamin, c'était le boom Michael Jackson, par exemple. Et puis, bon, lui, il a duré longtemps quand même. C'est un peu un contre-exemple. Mais je pense que oui, il y a une époque des boys bands aussi en France, hein, qui a énormément marché. Puis bon, voilà, c'est retombé comme un soufflet au bout de quelques années, assez peu d'années d'ailleurs. Donc je pense que oui, ça doit être un phénomène qui est nouveau, mais c'est un peu normal. Hein. À chaque génération, c'est star.
Et qu'est-ce que tu as pensé justement de ces fans là qui étaient là pour gagner ce fameux album ? Il y en a même qui font du japonais quand même, hein. Ça ouvre quand même une culture complètement différente pour ces jeunes.
Moi je trouve ça super parce que c'est un peu... c'est bien, ça rompt un petit peu avec la suprématie de la culture anglo-saxonne, la culture américaine qui monopolise un peu tout, et tu vois que justement tu as d'autres ethnies qui arrivent à susciter un intérêt chez une population européenne qui est très différente, hein, parce que la culture japonaise, la culture coréenne est quand même très différente de notre culture à nous. Ce qui fait que je trouve ça génial que les gamins, ça leur ouvre, ça les rend plus tolérants, ça les rend plus intéressés à d'autres cultures, carrément.
Le réseau M d'Arras, qui regroupe aujourd'hui plusieurs médiathèques, organise ce qu'on appelle un Kamishibai, petit théâtre d'images d'origine japonaise autour duquel se racontent des histoires en français et traduits simultanément dans une autre langue, afin d'éveiller les petites oreilles aux sonorités d'ici et d'ailleurs. Des bénévoles adultes mais aussi des enfants étaient présents lors du Arras Matsuri, on les écoute nous présenter leur travail.
Patricia, la médiathèque d'Arras du réseau M.
Oui, vietnamienne. Nathalie, je fais partie de la planète Kamishibai.
Alors la planète Kamishibai justement, bah, vous pouvez m'expliquer un petit peu le concept sur ce festival Matsuri?
Alors voilà, dans le cadre d'activités où j'ai rencontré Patricia à la médiathèque d'Arras, et elle m'a fait plonger dans la planète Kamishibai, où ça nous permet de raconter des contes à la façon japonaise, avec un butai et en bilingue. Donc ça permet de croiser des gens de multi-pays et de pouvoir baigner dans un flot d'accents et de paroles, et puis de langues chantantes, comme vous pouvez entendre derrière nous.
Voilà. Alors justement, ces langues, il y a plusieurs pays représentés. On a vu un conte vietnamien, forcément. Est-ce que là, on entend un conte espagnol?
Nous avons le vietnamien, l'indonésien, roumain, russe, espagnol, allemand, anglais, wolof, américain, serbe, et puis lingala.
Et tous ces textes qui sont traduits pour vous, c'est vous qui vous occupez de la traduction?
Les personnes, les parents et les enfants qui sont d'origine étrangère et qui participent à ce collectif, en fait, qui traduisent eux-mêmes les textes. À la médiathèque, nous avons un fonds de Kamishibai, quelques Kamishibai déjà traduits dans certaines langues, mais bien entendu, pas dans toutes les langues. Donc elles s'investissent aussi dans la traduction, et voilà. Tout ça dans un élan de partage et de découverte d'autres horizons et surtout de sonorités.
Vi, donc toi tu nous viens du Vietnam, comment t'es arrivée en France?
Je suis mariée avec Français depuis 2010, oui. Après j'habite à Edan, j'habite à Arras en 2011.
Alors donc tu es conteuse d'origine?
Non, c'est l'année dernière, je connais la route Kamishibai, oui.
Et donc du coup le conte que tu viens de dire en vietnamien, il raconte quoi? Il raconte l'histoire, et c'est quoi l'histoire exactement?
Peut-être que... Ce conte, c'est ça, c'est l'histoire d'une petite goutte de pluie qui voyage.
Devenir une rivière et se jeter dans les océans.
Voilà. Donc on vous retrouve à la médiathèque souvent?
Oui, voilà. Donc nous sommes sur le stand du réseau EM, plus particulièrement sur celui de la médiathèque d'Arras. Et donc vous pouvez retrouver le Kamishibai tous les samedis à 15h30. Il y a deux séances bilingues avec donc deux langues différentes. Et c'est très convivial et familial. Vous êtes tous les bienvenus. Spectateur ou conteur bénévole, vous serez bienvenue dans le groupe. Planète Kamishibai, donc.
D'accord. Et alors, dernière question, tous ces contes qui viennent un peu de l'étranger, qui nous font voyager, est-ce qu'il y a des thématiques particulières? Est-ce qu'il y a des particularités dans chaque conte?
Moi, j'en ai déjà perçu, oui. L'histoire qui me vient, là, c'est le voyage de l'escargot, en fait, qui parle des personnes qui se rencontrent, qui ont besoin à un moment d'être ensemble, qui s'enrichissent, mais qui savent aussi se séparer dans de bonnes conditions pour mieux se retrouver ou retrouver d'autres personnes. Bon, c'est vraiment ça qui représente pour moi Planète Kamishibai, parce que c'est vraiment le moment de la rencontre et puis des retrouvailles aussi.
Voilà. Alors, Kamishibai, ça veut dire quoi exactement?
Alors, littéralement, ça veut dire, en japonais, théâtre de papier. Et donc, le petit théâtre en bois que nous utilisons, ça s'appelle un butai.
Donc, ça permet de vous visualiser en même temps...
Une télé en bois.
Tout simplement, voilà.
En fait, ça permet de visualiser les illustrations. Et nous, derrière, nous avons le texte. Et donc, nous comptons l'histoire. C'est un outil vraiment formidable pour les petits et les grands.
C'est quoi ton prénom?
Talia.
Et toi, tu nous viens d'Indonésie?
Maman, elle est d'origine indonésienne. Et du coup, là, on attend une amie pour raconter une histoire qui s'appelle un Kamishibai. Et moi, je vais raconter en français et la copine de ma mère, elle va raconter en indonésien.
Mais tu parles indonésien?
Pas trop.
Donc, t'as grandi en France, t'es née en France?
Alors, je suis née en France.
Mais t'as déjà été en Indonésie ou pas?
Oui, deux fois.
Alors, comment ça te fait quoi de retourner là-bas, le pays de tes racines?
En fait, j'étais petite, mais je me souviens un petit peu et c'était bien.
Ouais, c'est différent de la France, j'imagine.
Oui.
Pardon?
Il est cette année en Indonésie, lui. Ah. Il a été voir sa mamie en Indonésie.
Alors, il a été voir sa mamie?
Lui, il a été voir sa mamie avec sa maman, hein?
Tu t'appelles comment?
Kélian.
Alors, tu peux me raconter un petit peu ton voyage en Indonésie? Qu'est-ce que tu as vu là-bas qu'il n'y a pas en France, par exemple?
Bah là-bas, il y avait plein de centres commerciaux et là, il fait beaucoup plus chaud.
Il fait beaucoup plus chaud là-bas ?
Oui.
D'accord. Chaud et humide, hein ?
Est-ce que tu as aimé ton voyage alors ? Tu as rencontré pas mal de gens ?
Oui.
Le texte que tu vas lire, le petit conte là que tu vas traduire, il raconte l'histoire de quoi ?
C'est un garçon qui cultive du riz. Et le titre, c'est Java et le riz. Il cultive du riz dans les rizières. Et il voit des enfants qui s'amusent, tout ça. Et le soir, toute la famille cuisine. Et à la fin, on fait des ateliers de marionnettes et il y en a qui dorment.
Avant de venir en France, son papa, qui est mon fils, a vécu en Malaisie quelques années.
Bah, du coup, avec eux, vous voyagez beaucoup aussi, vous ?
Moi, je suis allée à Bali avec eux. Je n'ai pas retourné en Indonésie.
D'accord. Alors, sachant qu'il s'est passé quand même pas mal de choses cette année à Bali.
Moi, j'ai peur. Moi, j'ai plus envie d'aller là-bas. Mais même sa maman, ça a été un peu dur cette année de retourner voir sa famille. Pour lui, ça a été un peu dur. Mais bon, il était content de ce voyage.
Je m'appelle Baye.
Alors toi, tu racontes des contes en Wolof.
En Wolof, oui.
Et tu viens d'où exactement ?
Du Sénégal.
Alors, et du coup, là-bas, c'est quand même un pays où il y a beaucoup de conteurs, forcément. Le genre d'histoire que tu racontes, il y a une spécificité particulière dans les contes ?
Oui, c'est avec une thématique particulière. C'est juste on raconte des contes pour bercer les enfants, pour les calmer, pour qu'ils fassent dodo et puis calme.
D'accord. Tu peux me donner peut-être un exemple d'histoire que tu vas raconter, là, une histoire comme ça ?
Comme l'œuf et le lièvre. Le lièvre, c'est l'œuf en Wolof. Je vais vous dire comme le lapin, de son intelligence.
D'accord.
Ouais. L'intelligence du lièvre dans la savane, comment il peut faire pour s'en sortir, pour ne pas se faire manger.
Sur le haras matsuri, on pouvait également se détendre et se faire masser le visage, une technique japonaise appelée le kobido. Avant de retrouver Marion qui pratique cette technique, j'ai pu rencontrer une des personnes qui a eu la chance de le tester.
Vous venez de sortir donc d'une séance de massage inspirée du kobido, comment vous vous sentez ?
Très très bien, c'est la première fois,
ouais.
mais ça a été avide. Moi qui ai beaucoup d'enfants, ça a été vraiment un soulagement, un vide, et puis se sent un peu... Je sais pas comment...
La chose, c'est difficile d'expliquer.
Voilà.
Mais comme là, il y a beaucoup de monde aujourd'hui, est-ce que vous avez quand même réussi à vous isoler
Oui. C'était très calme. Et les gens, ils respectent un petit peu aussi quand l'intimité du massage, voilà, tout à fait. Mais c'était vraiment bien.
C'est des soins massage visage inspirés du kobido. Alors d'où ça vient exactement pour expliquer un petit peu le concept ?
Alors le kobido, en fait, c'est un soin visage japonais. Donc en fait, ça vient, c'est très ancien en fait, ça vient des geishas qui faisaient ça et les princesses impériales. Donc voilà. Donc en fait, c'est basé sur une technique très manuel, donc en fait on fait des acupressions, des torsades avec les mains et en fait ça permet de lifter un petit peu le visage et de détendre la cliente.
Alors il y a des termes un peu compliqués, je vois le muscle possier du visage, est-ce qu'il faut faire des études spécifiques pour faire ce genre de massage ?
Alors moi je suis esthéticienne, donc je suis diplômée d'état et par contre pour faire le kobido j'ai dû faire une formation qualifiante supplémentaire et bien sûr on voit tous les muscles possiers pour savoir ce qu'on travaille et ce qu'on peut améliorer en fait par rapport au faciès.
Comment vous avez découvert justement cette façon de masser ?
Alors moi en fait j'ai découvert parce que je suis assez curieuse et que j'aime bien découvrir des univers différents. Donc j'ai fait des formations sur des pays différents et en fait chaque pays a vraiment une façon particulière de travailler et d'où voilà le kobido qui vient du Japon. Après il peut y avoir le lomi lomi pour tout ce qui est haïtien. Le balinais pour Bali. Voilà.
Et en ce qui concerne la façon de masser justement ce visage, est-ce qu'il y a un sens particulier ? Est-ce qu'on commence par certaines zones du visage ou est-ce que c'est vraiment la totalité du visage ?
Alors en fait, on va travailler vraiment la totalité du visage. Après, on peut faire en fonction aussi des besoins de la cliente. S'il y a un endroit à travailler plus qu'un autre, on peut accentuer en fait les gestes à tel endroit. Après, oui, il y a un protocole à respecter. Il faut bien suivre aussi justement les muscles possiers. C'est important de connaître l'anatomie de la personne pour pouvoir travailler dessus.
Et comment vous faites pour arriver à percevoir l'anatomie d'un visage juste avant le massage ?
Alors en fait, au départ, on apprend théoriquement et en fait, à force, on commence à sentir au niveau des doigts, en fait, du palpé, on sent vraiment où se trouve quel muscle est plus ou moins saillant chez certaines personnes et justement, il faut le stimuler.
D'accord. Et selon les certains types de peau, est-ce qu'il y a certains types de massages qui sont adaptés ?
Alors ça, il existe des manœuvres en fait dans des soins visage, donc c'est encore différent. Et par exemple pour les peaux qui sont grasses, il y a des manœuvres en fait qui permettent d'évacuer le sébum. Donc ça, c'est fait en complément d'un soin pour par exemple peau grasse. Et également pour les peaux sensibles, en fait, on évite les manœuvres trop toniques pour éviter de stimuler encore plus la sensibilité.
Enfin, pour clore ce sujet, il y avait des comptes également sur le Haras Matsuri. Ils étaient livrés à l'auditoire au sein de la librairie indépendante Le Legendarium. L'originalité de ces comptes, c'est qu'ils sont interactifs, le public devenant acteur de l'histoire. On en écoute un extrait avant de retrouver Lunda Zepa, la conteuse, au micro d'Astrid, une élève du lycée Bodimont.
Miyako, voleur de pommes, se retrouve en plein milieu de l'espace où il y a du sable blanc par terre
et des petits galets sur lesquels il faut marcher.
Le grand chef samouraï se retrouve à côté de lui, prend son katana, prêt à lui découper la tête. Alors c'est quand tu coupes la tête, c'est pas de là vers là, c'est de là vers là. Si tu fais dans l'autre sens, tu vas faire un peu un gros souci. Voilà. Au moment où il allait abattre son coup, il y a le voleur, tu me lâches tes bras, tu es un chewing-gum, c'est moi qui parle.
Ok.
Non ! Regarde là, bon sang. Non, t'as pas encore. Branche. Non ! Par pitié, je n'ai pas volé ces pommes. Enfin, j'ai pas volé les granits, c'était que des Big Lady. Ce n'est pas moi. Je te promets. Et si jamais, pointe du doigt, si jamais tu me tues, la vengeance sera terrible. Oui, parce qu'il faut quand même se dire que les fantômes japonais viennent toujours se venger, n'est-ce pas ?
Évidemment.
Voilà, n'est-ce pas ? Eh bien, le samouraï répond avec un grand courroux. Je te donne l'autorisation de te venger sur nous et de nous faire peur autant que tu veux. Ah merde, crédit, c'est à elle. Voilà, plutôt comme ça. Mais tu auras cette autorisation à condition que, lors de ta décapitation, tu arrives à mordre le caillou qui est en face de toi.
Quel caillou, déjà ?
Je l'ai dit au début, qu'est-ce que j'avais dit ?
Les cailloux. Oui, ils sont par terre, mais j'en vois pas, là.
Justement, mais imagination.
Oh là là.
Est-ce que tu acceptes d'essayer de mordre le caillou et ainsi tu pourras déclencher ta folie vengeresse ?
Absolument.
Voilà. Donc, tu baisses les bras et tu assènes ton grand coup vengeur. La tête roule par terre, à côté du caillou, mais dans un dernier élan, la mâchoire se fixe sur le caillou, serre désespérément et tombe inerte sur le sol. Toutes les personnes qui étaient là étaient mortes de peur. Parce que bien sûr, il a réussi à mordre le caillou, ça veut dire qu'il va asséner sa vengeance, sa grande folie sur tout le monde. Le samouraï, lui, donne son katana à son serviteur, qui a décidé, qui le lave avec de l'eau de haut en bas et qui l'essuie l'acier avec des feuilles de soie. T'es pas en train de jouer du violon, t'es en train de nettoyer un katana. Voilà, c'est bien, tu peux te rasseoir. Le temps passe. Et la grande question se pose. Tous les soldats, tous les samouraïs se disent... Tu peux te relever, au fait. Hein.
Ah.
De rien.
Ah, merci.
Tous les samouraïs se posent la question. Quand est-ce que la grande vengeance va s'abattre sur nous ? Et le grand seigneur, bien sûr, lui, ne réagit pas. Il dit, mais il n'y a rien à craindre, ne vous inquiétez pas. Retournez dormir, retournez à vos besognes. Et un jour... Tellement la peur était grande, tous les guerriers sont venus voir le Seigneur en disant « Par pitié, faites une cérémonie pour que sa colère se calme avant qu'elle nous tombe dessus !»
Et là, le grand seigneur le regarde avec un grand sourire. Mais je vous dis qu'il n'y a rien à craindre. Bien sûr, les guerriers interloquent. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que vous êtes tellement persuadés qu'il n'y a rien à craindre? Mais c'est simple. Si sa dernière pensée était de la vengeance, il nous aurait déjà attaqués. Sauf que sa dernière pensée en question, c'était de mordre ce caillou. Toute sa force, toute la volonté de son âme dans le dernier geste a été de mordre ce caillou. Donc, il ne peut pas se venger. On est tranquille. Mesdames et messieurs, la prochaine fois que vous rencontrez quelqu'un et que vous vous dites quand il sera mort, il va se venger, donnez-lui un caillou à manger.
C'est la morale de l'histoire.
Oui. Je peux te relever.
Ah. Je suis Lunda Zepa, je suis la présidente de l'association Les Mondes de Lunda Zepa, qui est une association d'entraide pour les jeunes artistes et pour revaloriser leur travail en tant que créateur, conteur, dans le milieu de l'art du spectacle et de l'artisanat.
Vous attendez à voir quelqu'un qui s'appelait Saladin, donc si j'ai bien compris, c'est votre compagnon, c'est ça?
C'est ça, Saladin, c'est mon compagnon, c'était lui qui était censé venir aujourd'hui, mais il a eu un empêchement, et il vient demain, et du coup on fera un duo de contes spécial pour le Matsuri.
Vous l'avez déjà fait ou pas les années précédentes?
Non, c'est la première édition. Je n'étais pas du tout sur la région avant, donc je ne connaissais pas du tout. Et là, je viens d'arriver, alors je découvre. Pour l'instant, ça se passe très bien. Le contact est magnifique. Le public est très intéressant. Et c'est un univers qui est vraiment très agréable. Donc à mon avis, ce serait peut-être intéressant que je revienne l'année prochaine.
Et vous faites ça autre part qu'à la race Matsuri?
Oui, bien sûr, c'est mon métier, je suis conteuse, en même temps qu'être illustratrice et bijoutière du coup, mais je fais énormément de festivals, je travaille dans les écoles, dans les centres de loisirs, les centres sociaux, les hôpitaux, les maisons de retraite, tout endroit où il y a besoin d'avoir une forme d'animation et aussi une forme de pédagogie artistique pour expliquer les différentes formes de communication. Parce que justement, le conte là, interactif, c'est basé sur un mélange entre du théâtre d'improvisation, du conte et aussi un peu de roleplay. Donc c'est marrant parce que ça permet aux gens de autant devenir acteurs que spectateurs d'une histoire.
C'était un reportage réalisé avec la complicité de Gabriel et d'Astrid lors de la 5e édition du Haras Matsuri qui s'est déroulée du 12 au 14 octobre dernier.